enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour à toutes et à tous. Et si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi dans Romains 10. L'épître aux Romains, lettre de Paul à l'église de Rome, chapitre 10, les versets 12 à 17. Je voudrais, dans le grand cadre de la foi, un bien précieux, parler ce matin de la foi qui a des oreilles. La foi a des oreilles. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce matin, vous allez l'apprendre. La foi a des oreilles. Dimanche dernier, le frère Mamadou a parlé du langage de la foi. La foi a un langage spécifique, mais la foi a aussi des oreilles. Lisons ensemble. Verset 12, Romains 10, verset 12. « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, notre version dit de la parole proclamée de Dieu, de la parole prêchée de Dieu. En tout cas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, un grand thème passionnant. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, ce ne sont pas des croyances. Un tas de gens prétendent avoir la foi, ils n'ont que des croyances. D'ailleurs, face à leurs difficultés de vie, leur croyance ne sert pas à grand-chose. Finalement, prier, ils ne savent pas comment faire. Aller à l'église, pourquoi faire? Ils ont une croyance, mais pas une foi. La foi chrétienne s'appuie sur des faits. La vie et la mort du Christ, c'est des faits historiques. Sa résurrection a été attestée. Nous ne croyons pas en des balivernes, en des légendes, en des fables. Nous croyons en quelqu'un qui est vivant au siècle des siècles. Et cette foi-là, au Christ vivant, elle nous a été communiquée par des prédicateurs, par des témoignages, par sa parole, la parole de Dieu, et elle nous nourrit. Et un jour ou l'autre, je ne l'ai jamais vu le Seigneur physiquement, mais je sais qu'il vit. Je l'ai invité dans ma vie le 13 septembre 1980. Je me souviens, il était 21h45. Il est venu dans ma vie. Il n'y a pas eu de flash, il n'y a pas eu de fumée non plus. Et à partir de ce jour-là, au fond de moi, des choses ont commencé à bouger. Il y a eu une faim des choses de Dieu. J'avais déjà faim avant, c'est vrai. Mais là, un désir, celui de prier par exemple. Alors qu'avant, prier, je trouvais ça franchement ennuyeux. Mais franchement ennuyeux et ringard. C'était bon pour les grenouilles de bénitier. Mais pour moi, qui avait à l'époque 17 ans, je voulais faire autre chose. Et puis lire la Bible, c'était difficile. Un texte des fois hermétique, que j'avais du mal à pénétrer. Et bien là, en lisant, avec ce regard nouveau, cette vie en moi, tout à coup le texte prenait une dimension que je ne lui connaissais pas. Amen. Et avec Job, je peux dire aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Cette foi, mieux nous dire une dernière fois, cette foi au Christ est la clé d'accès à laquelle sont rattachées des promesses incroyables. Jésus dit, dans Matthieu 17, verset 20, il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, et il rajoute derrière, rien ne vous serait impossible. C'est pas mal, ça, comme promesse, hein? Elle est un bien précieux à choyer. Et de ce fait-là, je vous encourage à ne pas jouer avec la foi. On peut nourrir sa foi, on peut aussi détruire sa foi. Et nous le verrons après comment. Alors comment avoir ce genre de foi? C'est un cadeau de la part de Dieu. Dieu donne la foi. Dieu communique la foi selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 1,14. Notre Seigneur a répondu avec abondance sa grâce sur moi, dit Paul. Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de la communion avec Jésus-Christ. Mais cette foi que j'ai reçu en cadeau il y a maintenant 25 ans de cela, cette foi a été appelée à grandir, à se nourrir. Il y a le langage de la foi, mais avec le langage est intimement lié un autre sens de la foi, l'écoute. La foi a des oreilles. Et selon ce que j'écoute ou que je n'écoute pas, je peux faire grandir ma foi ou la détruire. Jésus a lourdement insisté par rapport à l'écoute. Il dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On peut donc avoir des oreilles et ne pas entendre, ou plutôt ne pas vouloir entendre. Le premier commandement que Dieu donnait à Israël était « Écoute, Israël, écoute ». Et ce matin, je vous invite à dresser vos oreilles, à la fois celles-là qui sont ici et celles-là qui sont là. D'accord avec moi ? Premier point, tout commence par l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est parce que Noé a entendu Dieu lui parler et lui donner non pas des impressions, des sentiments, des sensations, mais une instruction claire et précise que Noé va construire un bateau incroyable. Parce que Abraham a entendu Dieu lui dire dans son cœur, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Tout a démarré par le fait que quelqu'un ait entendu la voix de Dieu. Moïse, dans le désert, a entendu Dieu lui dire, va en Égypte, va dire à Pharaon de lâcher mon peuple. Tout a commencé par le fait d'entendre, d'écouter. Et il a fallu que des oreilles soient là, attentives, pour écouter. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. Et une parole claire, non pas confuse, non pas du bruit, mais une parole claire, que la lumière soit et la lumière fut. Il n'est pas dit qu'au commencement était l'image. Nous sommes devenus une société de l'image. Au commencement était la parole. Le premier sens auquel Dieu s'adresse à nous pour nous amener à la foi, c'est l'écoute intérieure. J'ai commencé à écouter le Seigneur quand ma maman a été guérie de sa maladie. Tout à coup, mes oreilles se sont dressées. Et j'ai commencé à écouter davantage ces pasteurs qui prêchaient un Dieu vivant. Et j'ai commencé à l'écouter de plus en plus. Et plus il me parlait, plus ça nourrissait mon cœur. Et plus je lui faisais confiance. Et à un moment donné, j'ai ouvert mon cœur. Mais ça commençait par l'écoute. Or, l'écoute dans nos pays occidentaux est rudement mise à mal. Saviez-vous qu'un garçon de 13 ans a passé 5500 heures devant son téléviseur, alors qu'il n'a passé que 300 heures de sa vie à lire ? Dieu a interdit à son peuple de faire des représentations destinées à rendre visible l'invisible. Au commencement était la parole et non pas l'image. Je voulais peut-être ce matin vous inviter et nous inviter à avoir une oreille attentive. Parce que notre vie chrétienne commence par l'écoute. Et sa croissance et son développement continuent par le fait d'avoir une oreille attentive à ce qu'il dit. Il y a des moments où Dieu ne parle pas tout de suite tous les jours, n'est-ce pas ? Mais il y a des moments clés dans nos vies où il nous faut des directions. Que ce soit pour des grandes décisions privées ou professionnelles, ou que sais-je, il nous faut sa direction. Il nous faut entendre sa voix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Entende. Entende régulièrement. Entende constamment Dieu lui parler. Écoute Israël. Écoute peuple de Dieu. Voilà le mot d'ordre pour notre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des jours où Dieu m'a parlé par une prophétie. Pas tous les jours, pas tous les dimanches, pas tous les week-ends. Souvent, il m'a parlé par sa parole, en lisant sa parole régulièrement, tous les jours. Voilà qu'à un moment donné, dans un contexte donné, un verset sortait des Écritures, c'est comme si une flèche me transperçait, et je savais alors que Dieu m'avait parlé. Et cette parole-là, il fallait s'en emparer, la saisir, la conserver, et la proclamer. Comme Josué a proclamé cette parole que Dieu lui avait dite, « Tout sol que foulera la plante de ton pied, je te le donne. » Et vous avez remarqué que le diable aura tout fait pour éviter que Josué et son peuple n'avancent et ne prennent du terrain et ne gagnent du terrain. Mais tout a démarré par le fait d'écouter. Alors peut-être vous me direz, mais pasteur, je voudrais bien écouter, mais moi j'entends rien. Moi j'ai du mal à entendre. L'écoute de Dieu est une capacité que Dieu nous donne et qu'il veut développer en nous. Dans Jean 10, verset 3, c'est mon deuxième point ce matin. Jean 10, verset 3. Le berger lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. J'ai deux petites filles, ça vous savez maintenant. Elles commencent à connaître ma voix. Mais je connais leur voix aussi, hein. Notamment la nuit. Et cette nuit, ça a été bon, quoi. J'ai eu droit à des variations mélodiques, à des vocalises. Mais lorsqu'elles ont été créées dans le sein de leur mère, le Créateur leur a implanté une capacité d'écoute. Au début, quand elles sont nées, les sons étaient pour elles confus. Elles avaient du mal à discerner entre la voix du père, de la mère, du médecin, de la grand-mère. Mais au fur et à mesure qu'elles vont grandir, cette capacité va s'affiner. Et elles vont entendre de mieux en mieux. Et avec les années, elles seront capables de discerner, dans un orchestre comme ce matin, plusieurs instruments, plusieurs voix. Cette capacité leur a été donnée dans la conception de l'enfant. Et bien lorsque nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ, lorsque nous recevons le Seigneur en nous, Dieu implante en nous la capacité de reconnaître sa voix. Alors certainement, des fois, nous faisons des erreurs, n'est-ce pas? Un peu comme le prophète Samuel, petit garçon qu'il fut dans le temple. Voilà qu'un soir, Dieu le visite et lui dit « Samuel, Samuel ». Et le petit garçon se lève promptement, va aller voir son maître Élie, qui lui dit « Retourne au lit, mon fils, je ne t'ai pas appelé ». Ça arrive une deuxième et une troisième fois. Et la troisième fois, son maître spirituel lui dit « Mais attends, à mon avis, c'est Dieu qui te parle ». La prochaine fois que cette voix se fait entendre, dis-lui, par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Par le Seigneur, ton serviteur, écoute. On n'est donc pas toujours né avec une capacité d'audition parfaite. Cette capacité de reconnaître la voix de Dieu se développe au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur. Et on fait des fois des erreurs, comme j'en ai fait aussi. J'ai raconté une fois, n'est-ce pas, j'étais jeune chrétien. Et à l'époque... la réunion de prière était une chose importante. Et puis j'étais devant un partiel. Et honnêtement, j'avais du mal avec cette matière. C'était les maths. Il y avait à un moment donné une partie des maths qui me posait problème. Et puis il m'avait dit, mais viens avec à la réunion. Tu verras, demain le Seigneur t'aidera. Et dans mon cœur, je disais, ouais, mais moi, il faudrait peut-être que je révise. Hein, parce que tu vois, Seigneur, si je ne révise pas demain matin. Mais comme ils étaient tellement convaincants, les copains, je suis allé à la réunion de prière. Arrivé au partiel, j'ai pris un zéro pointé, 0,5 ce jour-là. Du coup, j'ai révisé ma position théologique. Je me suis dit, bon Seigneur, la prochaine fois qu'il y a un malaise là-dedans, je préfère régler ça là-dedans. Mais Dieu nous donne la capacité d'écoute. Et cette capacité d'écoute n'est pas que donnée à des pasteurs, à des anciens, à des diacres, à une élite. Elle est donnée à chaque croyant. Tu peux dire à ton voisin un instant, tu es capable d'écouter Dieu. À ceux qui sont nés de nouveau, Dieu a donné la capacité d'écouter Dieu. Hein, Maria? Il me fait des grands yeux, Maria. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Pour être conduit, faut-il que j'entende sa voix? Deuxièmement, pour être conduit, faut-il être disposé à mettre en pratique sa parole? À quoi ça vous sert que le Seigneur vous parle si de toute façon derrière vous allez faire le contraire? À quoi ça nous servirait que Dieu nous parle même fortement si de toute façon, après ce qu'il lui parlait, on lui dit « c'est pas la peine, Seigneur ». À Alors évidemment, il y a ce mot obéir et on voit toujours le côté très restrictif, très contraignant de l'obéissance qui... Mais non, attendez, c'est pas contraignant. Jette ton filet. C'est pour ton bien. Si tu jettes maintenant, là où je te dis, tu vas remplir ta barque de poissons. Roule la pierre. Oui, mais Seigneur, ça sent mauvais. Lazare, il est mort depuis 4 jours. Roule la pierre, je te dis, je m'occupe du reste. Remplis les jarres aux noces de Cana. Remplis les jarres. C'est simple, c'est presque c'est très terre à terre. Lorsque Jésus a dit ça, personne ne savait qu'il allait changer l'eau en vin. Et à l'époque, Jésus n'avait pas la renommée qu'il avait plus tard. C'était juste un invité parmi tant d'autres. Imaginez, moi je me suis dit hier, quand j'ai fait le message, mais Seigneur, si tu m'avais dit remplis les jarres, et que je suis occupé à servir 200 personnes déjà, et puis il y en a un des invités qui me dit de remplir 4, 5, 6 jarres, chacune ayant une capacité de 600 litres. Je lui aurais dit, mais hé, oh, tu vas pas, j'ai du boulot là. Mais ils ont obéi. Ils ont fait leur possible, et Dieu, lui, a fait l'impossible. Si nous voulons que Dieu nous parle, faut-il déjà que nous croyons qu'il peut nous parler et que nous sommes en mesure de l'entendre, et je voulais montrer par la Bible en main que vous êtes capable de l'entendre. Deuxièmement, être disposé à faire ce qu'il dit, être disposé à obéir. Et Dieu se révèle de plus en plus à celui qui est déjà entendu et qui est déjà obéi. Abraham, quand il a cheminé, au fur et à mesure qu'il a cheminé, il a fait des... Il a réussi de belles choses, il a aussi fait des erreurs monumentales. On est d'accord. Mais toujours à nouveau, parce qu'il a obéi, Dieu va se révéler à lui. Et de nouveaux points arrivent, de nouvelles étapes arrivent, et Dieu se révèle à lui, et lui parle encore, et il rentre ainsi dans son destin, dans le projet que Dieu avait forgé et formé pour sa vie et sur sa vie. Inversement, moins on écoute, plus notre cœur s'endurcit. Et à un moment donné, Dieu aurait beau crier, ça ne servirait à rien. Écoutez voir ce jugement de Jésus sur la ville de Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, et tu à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, entre guillemets, pour te parler, pour que tu les écoutes. Combien de fois, dit-il, ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Autrement dit, vous aviez des oreilles pour entendre et on n'avait pas voulu entendre, pas voulu écouter. Alors maintenant, quelles sont les bonnes conditions de l'écoute? Il y a des moments donnés, vous allez voir un message qui arrive, des fois il y a du brouillage sur la ligne. Il existe de bonnes conditions d'écoute, ce sera mon troisième et dernier point. Vous voyez que je suis rapide aujourd'hui. Dieu parle, et parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises, mais sa voix des fois se perd dans la multitude de messages qu'on entend quotidiennement. Nous sommes bombardés de messages, que ce soit les médias, la presse, l'audiovisuel, la radio, l'internet, que ce soit le téléphone, les coups de fil, on est bombardés de messages. Et là-dedans, il faut que je discerne qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Alors une première condition toute simple pour écouter Dieu, c'est de faire silence. Lisez avec moi Luc 3. Dans Luc 3, chapitre 3, versets 1 à 2. Un texte très très simple, on pourrait passer dessus très facilement. Voilà ce qui est dit. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de la Liturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Voilà le contexte. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Voyez-vous, je suis persuadé que la parole de Dieu aurait pu être adressée à des hommes éminemment plus importants que Jean-Baptiste. Il y avait Tibère César. Il était le gouverneur à l'époque mondiale. Il y avait Hérode, il y avait Ponce Pilate, tous ces hommes politiques qui gouvernaient des régions de l'actuel Israël. Tous ces gens-là avaient de l'influence et du pouvoir et ils auraient pu recevoir la parole de Dieu. Et notamment les deux suivants, Anne et Caïphe, sacrificateurs, hommes de religion, hommes de foi. Mais la parole n'a été adressée ni à Tibère César, ni à Hérode, ni à Philippe, ni à Lysanias, ni même pas à Anne et Caïphe, mais à un illustre inconnu, Jean-Baptiste, dans un endroit insolite, un désert. Et je me suis interrogé, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé aux autres? Je pense que la réponse est toute simple. Ils étaient trop occupés. Ils avaient trop à faire. Pas le temps. Le cerveau était encombré. Leur emploi du temps était encombré de choses à faire. À tel point qu'ils n'avaient absolument pas le temps de prendre du temps pour écouter le personnage le plus important de l'univers, Dieu lui-même. Mais Jean-Baptiste, lui, était au fond d'un désert. Et ce qui est généralement caractéristique du désert, c'est le silence. Et nous avons beaucoup de mal, dans notre société du divertissement et du bruit, de faire silence. Mère Teresa disait, Dieu est l'ami du silence. Je trouve ça beau, hein ? Vous trouvez pas ça beau ? Dieu est l'ami du silence. C'est à la fois beau et effrayant. Parce que nous vivons dans la société du bruit. Vous pouvez vous lever le matin avec le radio-réveil. Et déjà, vous avez toutes sortes de bruits et de messages. Vous n'avez pas encore eu le temps de mettre le pied par terre du lit que déjà vous savez ce qui se passe à l'autre bout du monde. Vous partez à la salle de bain, vous mettez la chaîne Hi-Fi. Vous repartez dans la cuisine, la radio continue. Vous allez dans la voiture, vous avez le lecteur CD. Si c'est pas ça, c'est le lecteur MP3. Et on a du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et on passe du temps dans le bruit. Quand c'est pas le bruit, on vous occupe. On vous occupe. Bon, pas forcément des choses mauvaises, mais on vous tient occupé. Regardez voir, on a passé 15 jours aux JO. C'est très bien les JO. J'aime les JO, j'ai regardé les épreuves, mais en janvier c'était le Dakar, février les JO, maintenant ça va être la Champions League, après ça sera Roland-Garros, et après ça sera le Mondial de football. Et comme moi, vous aimez le foot, les voitures et le ski, vous êtes mal barré cette année. Vous êtes tout le temps devant le téléviseur, ou derrière la radio, ou devant le journal pour savoir les résultats. Et vous perdez et vous passez du temps loin de celui qui voudrait vous parler de cœur à cœur. Vous me suivez toujours ? Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais je dis simplement que Dieu parle pas n'importe comment ni n'importe où. Il parle dans le silence. Avez-vous un culte personnel ? Je répète la question. Avez-vous un temps fixe tous les jours où vous passez du temps avec Dieu tout seul? J'aime plutôt le mot allemand qui ne dit pas culte personnel, mais il dit stille Zeit. Temps non pas calme, mais temps silencieux. Un temps où on s'assoit, où on fait une pause, et où à la fois on parle à Dieu, mais aussi où on fait silence pour l'écouter nous parler. Bravo les frères allemands, stille Zeit. Je trouve ça super. Stille Zeit. Généralement, Dieu ne crie pas. Il parle d'une voix normale. Lorsque Élie était sur la montagne, écoutez Dieu lui parler, il y a eu le tonnerre. Et il est marqué, Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il y a eu un vent violent. Et Dieu n'était pas dans le vent violent. Et puis il y a une brise légère. Un vent léger. Et Dieu était dans la brise légère. Si nous voulons écouter Dieu nous parler, je vous en supplie, prenez-vous du temps et prenez-vous un endroit, un lieu silencieux. Vous coupez le PC, l'Internet, vous coupez le portable, vous coupez le téléphone, fermez la porte à clé et vous restez là seul avec Dieu. Coupez le téléviseur aussi dans la chambre s'il y en a un. Dieu parle dans le silence. Savoir être dans le silence. Parce que voyez-vous, si des fois nous n'arrivons pas à aller dans le silence et que Dieu veut nous parler, il se peut que Dieu nous entraîne dans les temps de désert. Je suis sûr que Moïse a été emmené dans le désert pour la seule et unique raison, enfin une des grandes raisons, pas la seule sans doute, mais une des raisons a été pour qu'il entende Dieu lui parler. Dans Osée 2, verset 16, il est écrit, Osée 2, verset 16, pardon, verset 13 et 14, excusez-moi, Osée 2, verset 13 et 14. Et on parle, et c'est Dieu qui parle à Israël sous forme allégorique, sous forme d'image, un peuple qui avait du mal à écouter Dieu, parce qu'il était tellement occupé à servir d'autres dieux, d'autres divinités. Il est dit, je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle passait son temps à encenser les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait de l'Éternel. C'est pourquoi, voici, voilà c'est pourquoi. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Osée 2, 14. Il y a des temps de désert que Dieu nous impose dans nos vies pour la seule et unique raison qu'il a enfin envie de capter notre attention. Il a envie de nous parler. Et comme on est hyper occupé, suroccupé, que tout est rempli dans nos vies, il nous dit, maintenant je te mets à l'écart un instant. Allez, voilà, tu es calme là. D'accord, maintenant je peux enfin te causer. Parce que Dieu veut nous parler. Amen. Deuxième sous-point, rééduquer notre capacité d'écoute. Rééduquer notre capacité d'écoute. On a adapté ce lieu à un tournage. On prend le film, on filme le culte et tout ça. Mais voyez-vous, ce n'est pas un show. C'est un lieu où on prie Dieu et on l'adore. Et je me réjouis ces derniers temps pour des moments de silence qu'on a connus pendant la louange. Il y a des temps où c'est joyeux, où ça fait du bruit, et c'est fantastique. Puis aussi des temps où on a besoin de silence pour écouter Dieu nous parler. Saviez-vous que lors des réformateurs, les gens prêchaient, les prédicateurs prêchaient 3 heures. Spurgeon plaidait auprès des pasteurs, plaidait pour qu'ils prêchent courtement, en 55 minutes à 1 heure. Il y a 10 ans, on prêchait 45 minutes, 1 heure aussi. Pardonnez-moi, on ne peut pas tout réduire en 20 minutes. Mais c'est notre capacité d'écoute qui s'est réduite. C'est elle qui s'est violemment réduite. Aujourd'hui, on estime que les gens supportent plus que 3 minutes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à la radio, on fait des choses de 3 minutes. Parce qu'on se dit, il faut leur donner une dose homéopathique au départ pour qu'ils prennent goût à la chose et que finalement, à terme, ils soient en mesure de capter de nouveau plus. Question. Pas besoin de répondre. Qu'est-ce que nous supportons en temps de lecture de la Bible? En temps de méditation? Oui, frère, moi, j'ai été traumatisé à l'école. Moi, la lecture, beurque. Alors, je comprends pour tous les traumatisés de l'école. Et en tant qu'un seul instituteur, je vous demande pardon quand vous êtes tellement traumatisé à l'école. Mais nous prêchons la guérison divine dans ce lieu. Et si quelque part un instituteur ou un professeur vous a traumatisé, je vais prier, je vais vous imposer les mains afin que vous guérissiez du traumatisme et que vous repreniez le chemin de la lecture et de la méditation personnelle. Amen. C'est un privilège que nous avons. Quand nous allons au Sénégal, il n'y a que 30% des enfants qui savent lire. Allô? Que 30% ont accès à la lecture. Le reste est malheureusement analphabète. Nous sommes dans une société qui pousse à ce que les enfants apprennent à lire. Et je me dis, on lit si peu. J'étais comme vous, rassurez-vous. Jusqu'au jour où j'ai eu un inspecteur qui m'a inspecté en tant qu'instit. Et il nous parlait du plaisir de lire. Et je me suis dit, le plaisir de lire, n'importe quoi. Et il a fait un séminaire, enfin un truc de formation sur le plaisir de la lecture. Et j'ai participé et j'ai découvert qu'on pouvait avoir beaucoup de plaisir à lire. Beaucoup de plaisir à lire. Et je voudrais vous encourager à goûter à ce plaisir parce qu'il est incomparable. Rééduquer notre capacité d'écoute. Quelle est encore notre capacité de lire et de ruminer la parole? Enfin, un troisième et dernier point, savoir, si d'un côté il faut savoir ouvrir les oreilles, je dirais, de l'autre côté il faut savoir aussi fermer les oreilles à certaines voix. Oui, ouvrir les oreilles à la parole de Dieu, ouvrir les oreilles à la prédication, mais fermer les oreilles à au moins trois choses. La première, fermer les oreilles à la négativité. Parce que voyez-vous, il n'y a pas que Dieu qui parle. Le monde parle, le diable parle, et même notre chair, elle aussi parle. Et il y a des gens, ils ont beau entendre les meilleures des prédications à la sortie du culte, ils vont me dire, ils vont se dire, non pas à moi, mais à eux-mêmes, chez moi, ça ne marchera jamais. Les gens négatifs. On se souvient de l'histoire de cette famine dans la région de Samarie, à l'époque d'Élisée. Une famine sévère, au point que les mamans cuisaient leurs enfants pour manger, pour montrer la famine sévère que c'était. Et le roi, qui était un peu fou quand même à l'époque, avait décidé de faire table rase avec Élisée. Il l'accusait de ces maux-là. Mais Élisée, au moment le plus crucial, va donner une parole prophétique et va dire, je paraphrase, il va dire, demain à la même heure, vous aurez de la farine pour trois fois rien. Et l'officier du roi, qui avait entendu ça de la bouche d'Élisée, va lui dire, non mais, même si Dieu mettait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Cet homme était tellement négatif qu'il n'arrivait même plus à croire une parole prophétique donnée par un homme de Dieu dont les paroles avaient été éprouvées auparavant. Et l'homme de Dieu de lui répondre, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et le lendemain, il s'est passé le miracle. Vous pouvez lire l'histoire dans 2 Rois, chapitre 7. Mais lui, quand la foule va sortir pour aller se ruer sur les vivres des ennemis, il va mourir piétiné. La négativité. Il y a des gens qui ont le chic de voir toujours le verre à moitié vide. Il a beau être à moitié plein d'un bon Bordeaux, qualité supérieure. Vous savez, un vin qui est fin et délicieux. Pour eux, de toute façon, le verre est à moitié vide. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils se disent, Dieu, j'ai entendu ça récemment, Dieu a partagé l'humanité en deux catégories. Les uns qui l'aiment, les autres qui n'aiment pas. Et moi, je suis du côté de ceux qui n'aiment pas. Donc, c'est faux. Mon ami, c'est faux. La Bible dit que Dieu aime tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit la couleur de leur peau, au niveau social ou intellectuel, Dieu aime tous les hommes. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les justes et sur les... La négativité. On se souvient de cette situation où les 12 espions sont partis voir Israël, pays Canaan, pour inspecter un peu ce qu'il y avait. Et Moïse leur dit, ramenez-nous des preuves, allez voir comment est le pays. Ils vont revenir et dire, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est fantastique, t'as vu la grappe? On a une grappe tellement énorme qu'il a fallu une perche et la porter à deux. Super. Le peuple était content. Mais dans la même foulée, ils ont dit, mais les villes sont fortifiées. Les gens sont comme des géants d'Anak. Et à leurs yeux, on n'est que des sauterelles. Vaincus avant même d'avoir combattu. Ça, les gens négatifs. Et Caleb va s'opposer et dire, mais non, c'est vrai qu'il y a ceci, cela. Mais avec Dieu, on va y aller et on va gagner. Et la foule s'est levée et dit, oh, taisez-vous. Arrêtez. Qu'est-on venu faire ici pour mourir? S'il fallait mourir, on peut mourir avant, hein, à la mer Rouge par exemple. Et dans le désert aussi, il n'y avait rien à manger, rien à boire. Et mourir. Ils veulent toujours mourir ces gens-là. Ah ben, c'est vrai, hein, les gens négatifs, ils veulent toujours mourir. Mais ils tiennent longtemps, hein, c'est comme la vieille mauvaise herbe, hein, ils tiennent longtemps, c'est incroyable. Hein. Et alors, c'est l'hystérie collective. Ils ont pleuré. Nombre 14, verset 1, Jésus, ils pleurèrent toute la nuit. Et finalement, pour faire activer la chose, maintenant on retourne en Égypte. C'est de la faute à Moïse, c'est de la faute à Aaron, c'est de la faute à Dieu. Voilà, la faute à Dieu, voilà. Coupable ultime, Dieu lui-même. Destin ultime, 40 ans de désert. Écoute Israël, la foi vient de ce qu'on entend. Caleb et Josué étaient animés de la foi parce qu'ils avaient entendu Dieu dire « Je vous donnerai ce pays, je vous le donnerai, tout seul que foulera la plante de votre pied, je vous le donne !» Il n'a pas dit face au géant d'Anak, vous allez vous taire. Non, non, je vous le donne. Allez-y. Je serai avec vous. La France, c'est trop dur. C'est trop dur, la France. Dieu est plus dur que la France. Dieu a un front plus dur que la France. Et Dieu veut sauver la France. Et Dieu veut toucher ce pays. Et je crois que le temps viendra où nous serons étonnés de voir ce que Dieu peut faire dans un pays aussi résistant que la France. Parce que Dieu aime les Français. Amen. Tous les Français. Amen. Alors, êtes-vous un négatif? Un conseil très très simple. Je vais le dire en français poli. Taisez-vous. Faites taire non seulement votre bouche, mais aussi ces langages intérieurs silencieux. Vous savez, il y en a qui ont comme ça une façade extrêmement pleine de foi. Ah oui, frère, nous allez voir, Dieu a dit. Mais au fond d'eux, le langage est le contraire. C'est pourquoi il nous est dit de méditer les Écritures. Pourquoi ? Parce que méditer veut dire ruminer, ça veut dire avoir affaire avec le cœur. Les méditations de mon cœur, les pensées profondes de mon cœur doivent changer. Si nous voulons entendre Dieu nous parler, faut-il non seulement être dans le silence de temps en temps, ou régulièrement, mais aussi rééduquer notre capacité d'écoute, prendre du temps, et finalement fermer ses oreilles à la négativité, au doute, à l'incrédulité, à l'incrédulité. Dans 2 Rois 4, verset 4, lorsqu'une femme d'un prophète qui était décédé vient voir Élisée et lui dit, écoute, les créanciers sont là, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien, ils veulent prendre mes enfants pour les vendre au marché aux esclaves. Qu'est-ce qu'on fait? Le prophète lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Il la renvoie à Dieu. Et puis il lui dit, rentre chez toi, cherche partout dans le village des pots, des récipients. Parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait encore un petit peu d'huile. Il lui dit, cherche des pots en grand nombre. Et quand tu rentres, tu dis, ferme la porte. Et tu verses un peu d'huile dans chaque pot. Et tu verras. Et je me suis interrogé, il dit, mais pourquoi est-ce que Élisée lui a dit, ferme la porte? Vous savez pourquoi? Je pense que, très sincèrement, toutes les commères du village seraient venues voir et lui dire, Madame, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la veuve du prophète là? Le peu d'huile qu'elle a, elle va le gaspiller en mettant une goutte dans chaque pot. Mais elle est folle, elle a perdu la raison, faut l'arrêter. Mais Élisée a donné le bon conseil, il lui dit, ferme la porte, entre parenthèses, à l'incrédulité. Ambiante. Elle a fermé la porte, elle a rempli ses petits vases et l'huile s'est multipliée, elle a tout pu vendre, payer ses dettes, garder ses enfants et vivre longtemps, heureuse encore. Amen. Dans Marc 6, il est dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle à part quelques guérisons simples à Nazareth. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Et si vous lisez bien le texte, les versets d'au-dessus, voilà comment l'incrédulité s'est manifestée, comment ça a été véhiculé. Ça a été véhiculé dans un langage donné. Les gens se sont dit, quoi? Jésus? Le fils de Marie et de Joseph, celui qu'elle a fait avant le mariage, là. Excusez-moi, à mon avis, c'est ce qui s'est passé là-bas. On connaît ses frangins, on connaît ses sœurs. Ils ont joué avec nos fils dans le bac à sable. Et maintenant, il vient nous dire qu'il... Non, c'est impossible. Laisse tomber. Et Jésus a dit, il s'étonnait qu'il ne pût faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Puis une dernière voix à laquelle il faut que nous fermions nos oreilles, c'est la voix de l'orgueil. Je termine par là. L'orgueil est quelque chose qui est profondément lié à la nature humaine. Vous me suivez toujours là ? À part chez vous, personne n'est orgueilleux, n'est-ce pas ? À part chez nous, à part moi, enfin bref. Mais l'être humain est profondément orgueilleux. Souvenez-vous, Naaman, le général syrien, qui était venu voir aussi Élisée pour te guérir de sa lèpre. Et voilà qu'il arrive, il espère un tapis rouge, enfin il espère que le prophète sorte, fasse une espèce d'incantation, etc., etc. Et Naaman ne fait, Élisée lui envoie son serviteur et lui dit, dis à Naaman d'aller se laver cette fois dans le Jourdain. Alors, le Jourdain, c'est un petit ruisseau, hein, à côté des grands fleuves, l'Euphrate, etc. Et Naaman dit, quoi? Attendez, moi, général, en chef des armées de Syrie, moi qui ai le pouvoir d'écraser qui je veux, comme ça. Et maintenant, il n'est même pas sorti me dire bonjour, ce prophète. Et quoi, je dois aller me laver dans le Jourdain, ce petit ruisseau là. Chez moi, il y a l'Euphrate, il y a le Tigre. Non,
pas moi.
Quoi ? M'avancer le mardi soir ici ? Ah non, devant tout le monde. Ah non. Quoi ? Demander la prière à un pasteur ?
Non, écoutez, moi j'ai mes médecins, j'ai même mes guérisseurs, évidemment.
Mes parents ont visité des guérisseurs pendant des dizaines d'années. On a eu des actions, mais aussi des réactions. Le mal s'est déplacé, mais n'a jamais été guéri. Quand ma mère est allée voir un pasteur, où ils ont fait table rase du passé, il a prié. Une fois pour elle, elle a été guérie sur le champ. L'orgueil. Alors, j'ai envie de vous dire, osez comme Naaman vous abaisser. Parce que Dieu élève celui qui s'abaisse. Dieu fait grâce aux humbles. Et si on ose écouter sa parole et marcher sur son orgueil, vous verrez Dieu agir. Amen. La foi a des oreilles, elle est un bien précieux, elle a des oreilles, et cette foi est appelée à grandir. Tout acte de foi commence par une écoute active de Dieu, comme Noé, Abraham, Moïse. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une capacité que Dieu nous donne, et elle peut se développer en nous. Alors à nous d'apprendre les conditions nécessaires, méditer la parole, la lire, savoir faire silence dans la masse de bruit qu'on entend. Moi, des fois, je coupe la radio, la télé, tout, je coupe tout. Hein. Et ma voiture, je coupe tout. Et là, seul, avec le Seigneur, je lui parle. Dans ma chapelle ambulante. Et puis, finalement, il faut savoir fermer les oreilles à des langages comme le doute, la négativité, l'incrédulité, l'orgueil. Au commencement était la parole. Et des oreilles qui entendaient la parole. Ce matin, je nous invite à faire la prière. Seigneur, parle. Ton serviteur, écoute. Seigneur, parle, ta servante veut réapprendre à écouter. Seigneur, parle, donne-moi une oreille pour entendre.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.